Bienvenue à tous. Nous reprenons notre causerie au point où nous l'avions laissée la dernière fois. Je vous rappelle que nous avons indiqué quelques outils de travail qu'utilise l'historien et qu'utilise l'anthropologie et aussi la sociologie. Je vous parlerai plus tard d'une autre discipline qui est très difficile à intégrer dans notre cours parce que je sais que les auditeurs ne pourraient pas comprendre l'importance de cette discipline pour la lecture surtout des textes sacrés. Car lorsque on essaye d'appliquer la linguistique à l'analyse du discours coranique, les musulmans répondent immédiatement, en protestant souvent, que on désacralise le texte coranique lorsque on le lit d'une manière linguistique moderne. Voilà pourquoi j'hésite à présenter tout de suite l'importance et l'application de la linguistique moderne à l'analyse de ce que les linguistes appellent l'analyse du discours religieux, mais la linguistique fait la même chose pour les autres discours, par exemple le discours philosophique ou le discours juridique ou l'écriture littéraire ou bien le discours que prononce aujourd'hui un leader politique. La linguistique s'intéresse à toutes les formes de discours et elle analyse chaque discours pour montrer comment il est construit et surtout pour montrer quelle est la part de l'idéologie dans un discours et quelle est la part de l'expression de la vérité, des valeurs, de l'explication scientifique dans la construction d'un discours. Voilà déjà un certain nombre d'indications que je place ici en attendant que je puisse vous amener à mieux comprendre l'intervention de la linguistique dans l'étude en particulier des textes sacrés, mais aussi des grands textes qu'ont écrit par exemple Ibn Arabi ou bien Al-Ghazali ou bien Fakhr al-Din al-Razi et beaucoup d'autres penseurs qui parlent de la religion et qui touchent toujours à des textes sacrés. Dès que le texte sacré est en jeu dans une étude scientifique, il y a tout de suite un conflit qui s'installe parce que les croyants et la croyance religieuse, en particulier dans le domaine islamique, n'a pas encore fait l'objet d'une recherche historique, d'une explication historique, linguistique et anthropologique, comme je l'ai dit. Et donc, nous lisons le Coran, nous lisons le Hadith, nous lisons les textes théologiques, les textes religieux anciens, uniquement du point de vue de la croyance. Donc, pour faciliter toujours l'introduction à ces outils de travail, je voudrais maintenant vous expliquer un point important dans l'étude de l'islam et des cultures qui sont reliées à l'évolution de l'islam au cours de l'histoire. C'est encore un domaine que l'anthropologie étudie. Mais l'anthropologie en liaison avec l'histoire, car on doit utiliser plusieurs disciplines à la fois pour comprendre ce qui s'est passé dans les sociétés. Le problème que je voudrais essayer de vous expliquer, c'est la différence entre la culture orale et la culture écrite. C'est un sujet capital. Pourquoi ? Parce qu'au moment où le Coran émerge en Arabie et au moment où les évangiles émergent en Syrie-Palestine et au moment où, dans l'ensemble du Proche-Orient, parmi les Hébreux, l'ancien Israël, émergent les récits bibliques, eh bien, les sociétés d'alors pratiquer une culture orale. L'écriture existait, mais elle était réservée à quelques personnages, généralement religieux, ou qui ont des responsabilités politiques dans la transmission des savoirs, et l'usage de l'écriture était quelque chose de tout à fait exceptionnel. Au temps du Coran, l'écriture, encore une fois, bien sûr, existait, a fortiori, parce que c'est le début du 7e siècle, dans le Proche-Orient, est une période relativement récente où de grandes cultures se sont déjà répandues et l'écriture s'est déjà répandue, mais je fais remarquer qu'au temps du Coran, et jusqu'en 780 ou plus, le papier n'existe pas encore. Par conséquent, l'écriture reste quelque chose de particulier et d'exceptionnel, et se faisait sur des parchemins, bien du papyrus, c'est-à-dire des supports qui sont moins commodes que ne sera le papier lorsqu'il sera découvert et transféré de Chine au Proche-Orient. Et quand ce transfert sera fait, les arabo-musulmans vont commencer évidemment à produire des manuscrits, et donc l'écriture prend beaucoup plus d'importance. Pourquoi insister entre l'oral et l'écrit? Eh bien, d'abord parce que tous les prophètes, depuis la Bible, les prophètes de la Bible jusqu'à Mohammed, ont parlé, ont délivré un discours oral avant de que ce discours ne soit mis par écrit. Or, les conditions de l'oralité pour la communication sociale sont tout à fait différentes des conditions de l'écrit pour la communication entre les hommes en société. Parce qu'un texte écrit, il est sur un papier ou un parchemin, je peux le lire tout seul et je n'ai devant moi que les mots qui composent le texte. Tandis qu'un discours oral est toujours délivré devant une assistante. Il faut au moins une personne présente pour qu'il y ait un discours oral, une énonciation orale. Et donc, la communication est beaucoup plus vivante parce que ceux qui sont présents écoutent celui qui parle, et celui qui parle, comme moi-même à la radio en ce moment, bien que vous ne soyez pas devant moi, chers auditeurs, eh bien, si vous étiez devant moi, vous auriez vu que je suis obligé d'utiliser mes mains. Mes mains sont en train de bouger et la personne qui enregistre ce que je suis en train de vous dire voit mes mains bouger. De même, mon visage exprime des significations lorsque je parle, parce que le sujet humain qui parle utilise des mots qui l'émeuvent, qui sont importants pour lui. Et surtout, celui qui parle ressent la responsabilité de toucher ses auditeurs. Comme moi, en ce moment, je suis toujours inquiet lorsque je parle devant un micro, sachant qu'au-delà de ce micro, il y a un grand nombre d'auditeurs. Et donc, pour établir une communication, les mots eux-mêmes que nous prononçons ne suffisent pas. Et donc la communication est pleine lorsque se fait de façon orale avec une assistance. Ceci est extrêmement important. L'autre chose qui caractérise la culture orale, c'est que la connaissance n'exige pas que l'on aille à l'école pour être partagé dans la société. Il suffit d'être là et d'écouter. Donc, depuis notre enfance, nous sommes au milieu de nos parents, au milieu des gens de notre village, nous écoutons les mêmes choses, et par cette écoute, nous arrivons à acquérir la même culture et les mêmes connaissances que tout le monde va partager sans qu'il y ait nécessité à aller à l'école pour apprendre à écrire, ensuite pouvoir lire, les grands textes produits par les autres, etc. Ceci est extrêmement important et il y a d'autres faits qui caractérisent la culture orale. La culture orale exerce la mémoire beaucoup plus que la culture écrite. Parce que lorsque la culture écrite intervient, nous comptons justement sur le document écrit et nous ne faisons aucun effort de mémoire pour le retenir dans notre mémoire. Voilà pourquoi les grands auteurs dans la culture orale sont ceux qui ont le plus écouté, le plus mémorisé et qui peuvent répéter ce qu'ils acquièrent au cours de leur vie pour être transmis de génération en génération. Et c'est ainsi que tout ce qu'a pu faire le prophète durant sa vie, tout ce qu'il a dit à Médine et à la Mecque, a été rapporté par des gens qui l'ont mémorisé et transmis donc par ce qu'on appelle les compagnons et ensuite les suivants, tabi'oun, sahaba, tabi'oun, et la troisième génération, tabi'u tabi'in, et à partir de la troisième génération, l'écrit va intervenir. Mais même lorsque l'écrit intervient, l'écriture reste quelque chose vis-à-vis de quoi on se méfie. On a plus confiance dans ce que quelqu'un dit devant nous et prononce devant nous, parce que nous connaissons la personne qui parle. Nous pouvons évaluer son honnêteté, sa fiabilité, tandis que le texte écrit, il est très difficile d'évaluer sa fiabilité, d'où ce que je vous ai déjà dit la dernière fois au sujet de la philologie. La philologie est obligée de contrôler le texte mot par mot pour justement déterminer la fiabilité de ce texte. Est-ce qu'il me renvoie exactement au personnage qu'il a écrit, à l'auteur qu'il a écrit, est-ce qu'il me renvoie exactement à l'année 622, par exemple, de l'Égir, qui est un grand événement, pour que je puisse dire ça, c'est un document qui me parle de 622, de l'année 622. Une autre chose, c'est que le discours oral dans la culture orale, parce que nous sommes présents devant celui qui parle, eh bien, à chaque moment, nous pouvons arrêter celui qui parle, pas l'arrêter d'une manière impolie, mais enfin, faire en sorte que on puisse lui poser des questions, en disant, vous venez d'employer un mot que nous ne comprenons pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Donc, on peut immédiatement recevoir l'explication et avoir un sens qui n'est pas discutable. Tandis que lorsque c'est écrit, l'auteur est mort depuis très longtemps, les témoins ils sont de moins en moins fiables, et là nous sommes placés devant des incertitudes au sujet du sens de ce que nous ne pouvons plus entendre de la bouche de celui qui a prononcé le discours pour la première fois. Je voudrais vous donner un exemple extrêmement frappant et clair dans le Coran. Dans le Coran, dans le verset 12 de la sourate 4, c'est-à-dire Nissa, sourate Nissa, il y a un verset qui a versé beaucoup d'encre, occasionné des discussions à l'infini parmi les exégètes. Parce qu'il y a un mot qui est employé dans ce verset, qui est le mot kalala. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum ath-thuluth, etc. Le verset continue, il s'agit de l'héritage. Ce verset, Tabari dans son tafsir, lui consacre plusieurs pages, rien que pour ce verset. D'abord, que veut dire le mot kalala? Il est très important de connaître le sens de kalala pour pouvoir, pour les juristes, se prononcer sur la façon d'appliquer ce verset sur la succession. Et nous savons combien le problème des successions est capital dans toutes les sociétés. Or, ce verset parle de succession. Et le mot kalala est mystérieux. Alors, Tabari rapporte plusieurs akhbar, c'est-à-dire des récits de témoins. avec ce qu'on appelle des isnad, c'est-à-dire des chaînes d'appui qui certifient que Haddathani Fulan, An Fulan, An Fulan, c'est ainsi que se transmettait justement tout ce qui concerne l'explication des versets et la manière dont les versets ont été révélés et les circonstances de la révélation de chaque verset. Alors voilà un mot qui est tellement mystérieux que dans la même sourate 4, à la fin de la sourate, il y a le verset « Yis'alounaka anil kalalati ». On te posera la question au sujet de la kalala. Voilà qui illustre le fonctionnement de l'oralité, de la culture orale dans les sociétés. C'est quelque chose d'extrêmement important pour la transmission d'un texte révélé dont va dépendre plus tard la vie de tous les croyants et dont va dépendre la façon dont les croyants vont comprendre ou ne pas comprendre ce qui leur est dit dans le livre de référence. Et ceci est vrai de tous les textes extrêmement anciens. Et la question de l'oral et de l'écrit, et vous voyez tout ceci, c'est l'anthropologie et la linguistique qui nous l'apprend. Parce qu'il y a, comme vous venez de le voir, des problèmes de langue, de problèmes de fonctionnement de la langue, dans le cadre de l'oralité et dans le cadre de l'écriture, mais il y a aussi des conditions sociales, culturelles et anthropologiques qui vont influencer la façon dont fonctionne l'oralité et la façon dont fonctionne l'écriture. En effet, il me reste à dire que la culture orale dans les pays d'islam subsiste encore jusqu'à nos jours. Nous ne sommes pas sortis de la culture orale dans un très grand nombre de pays musulmans, alors que l'Europe est pratiquement sortie complètement de la culture orale parce que l'Europe a commencé la scolarisation depuis beaucoup plus longtemps et l'Europe aussi a inventé l'imprimerie, pas seulement le papier, depuis le XVIe siècle. Et donc la diffusion du livre et de l'écrit en Europe est partie beaucoup plus tôt et a permis par conséquent à l'écriture de se répandre même dans les milieux populaires, comme on dit, et de gagner de proche en proche toutes les couches sociales. Tandis que l'imprimerie n'est intervenue dans les pays musulmans que très tardivement, au début du 19e siècle par exemple, pour ce qui concerne l'impression des ouvrages en arabe. La persistance de l'oralité a beaucoup de conséquences sur l'évolution de la vie religieuse et de la connaissance de la religion. C'est ainsi que, à partir du XIIIe siècle, la production intellectuelle s'est rétrécie pour des raisons que nous n'avons pas le temps d'expliquer maintenant, et la connaissance de l'islam s'est rétrécie sociologiquement, et nous assistons à la diffusion d'un islam populaire, d'un islam confrérique, les confréries, turuq en arabe, qui vont jouer un rôle extrêmement important pour suppléer à l'absence ou à la faiblesse ou à la rareté des madrasas, des zawiyas, dans lesquels continue l'enseignement des sciences religieuses et l'enseignement d'autres sciences, mais pas avec la même intensité et surtout pas avec la même créativité et inventivité qui caractérisait la culture écrite entre le 7e siècle et le 13e, 14e siècle dans l'ensemble du domaine islamique. L'oralité se retrouve encore aujourd'hui pour des raisons de scolarisation. Il y a par exemple le problème de la scolarisation des femmes dans le domaine musulman, qui a pris un retard considérable par rapport à la scolarisation des garçons, même après l'émergence des États modernes, après la libération des pays colonisés. Et ceci va retentir sur les rapports des musulmans à leur religion en tant que rapport fondé sur des connaissances historiques, des connaissances linguistiques, des capacités par conséquent d'introduire une intelligence critique du fonctionnement de la religion et de façon à faire évoluer la pensée religieuse en utilisant par exemple des enseignements relatifs à l'élaboration du droit musulman par rapport à l'élaboration du droit moderne qui va être introduit de plus en plus dans les législations par les parlements dans la plupart des pays musulmans depuis les années 1950-60. Et ceci va donner lieu à, sociologiquement, ça va donner lieu à une différenciation de plus en plus grande entre les expressions de la religion, non seulement entre la culture populaire orale et la culture savante écrite, mais cette fois-ci, pendant la période récente, donc, il va y avoir une différenciation de plus en plus grande et dangereuse pour la culture en général et la religion en particulier, c'est-à-dire l'islam, parce qu'il va y avoir une désintégration des cultures populaires, paysannes et nomades à cause du phénomène du déracinement des paysans qui, pour des raisons économiques, des raisons sociales, des raisons de démographie et aussi des raisons politiques, vont être obligés de quitter les terres qui les faisaient nourrir pour aller se concentrer dans les grandes villes et les périphéries des villes pour faire former une population détachée des codes culturels populaires anciens. Et les codes populaires culturels anciens étaient des codes oraux, mais qui étaient extrêmement efficaces pour le maintien du lien social, des cohésions sociales, des valeurs qui soudent sur la base de l'honneur, l'ère, dans toutes les sociétés. Et il va y avoir par conséquent un effritement de la culture orale, un effritement très rapide et décisif, puisque les codes culturels ne vont plus fonctionner du tout. Les familles et les liens qui liaient profondément les familles et les codes culturels qui se transmettaient, comme je l'ai dit, non pas par l'école, mais par la participation immédiate de tout le monde depuis l'âge de l'enfance jusqu'à la mort, à toute la culture partagée dans les villages ou dans parmi le monde nomade, tout cela va disparaître brusquement et va donner lieu à ce que les sociologues appellent la culture populiste, le populisme. Le populisme est un phénomène récent. Et les expressions de ce qu'on appelle, les politologues appellent, l'islamisme fondamentaliste est lié sociologiquement à ce grand phénomène de désintégration, de cassure des cadres sociaux de la culture populaire. Le passage de la culture populaire à la culture populiste va retentir dans les villes jusque sur la culture urbaine. En effet, dans les villes où viennent s'agglomérer des jeunes, une jeunesse nombreuse, puisque c'est la démographie, la croissance démographique a été très rapide depuis les années 1960 jusqu'aux années 1990. Elle ralentit un petit peu maintenant, mais nous avons là une démographie qui est en place et nous avons des jeunes qu'il faut bien prendre en charge d'une façon ou d'une autre et qui vont peser sur le fonctionnement de la culture savante et la culture orale, par exemple, qui a permis à Ibn Hisham d'écrire la Sira Nabawiya, la sira, la biographie du prophète, avec des récits mythiques qui ont une grande facture littéraire, qui sont travaillés littérairement. De cette littérature médiévale, nous allons évoluer vers une littérature orale, puisqu'elle utilise la radio et la télévision, et une littérature qui se situe à mi-chemin entre l'ancienne littérature populaire et la nouvelle littérature et le nouveau discours d'expression des sociétés contemporaines, qui est un discours essentiellement populiste, pénétré par des besoins idéologiques politiques. C'est un immense changement. C'est pour cela, je ressens, je vous l'avoue, chers auditeurs, une grande difficulté à insérer les propos que j'essaye de tenir devant vous pour retenir votre attention, pour ne pas perdre votre attention, parce que j'essaye d'insérer mon propos à l'égard d'auditeurs qui appartiennent sociologiquement soit à la culture populiste, soit certaines personnes qui, d'un certain âge, peuvent avoir le souvenir et la mémoire du fonctionnement de la culture orale dans les villages anciens. Et quand je dis anciens, ça va simplement jusqu'aux années 50-40. C'est-à-dire qu'il y a des générations, des Libanais par exemple, qui ont vécu dans les villages libanais de 1940 et de 1950, ils ont un souvenir très vif des ruptures qui sont intervenues, surtout après la douloureuse guerre civile du Liban, comme en Algérie, la guerre civile, etc. Voilà des phénomènes qui méritent d'être bien analysés. Et il faut donc la sociologie pour faire ces analyses. Je viens de faire, sans le dire, de la sociologie de la culture, en décrivant les différents groupes sociaux et les fossés qui se creusent entre les différents niveaux de culture propres aux différents groupes sociaux qui vivent aujourd'hui dans nos sociétés. Nous arrêterons ici pour cette causerie et j'espère vous retrouver la prochaine fois. Bienvenue à tous, je suis heureux de vous retrouver tous, j'espère. Je vous remercie pour votre fidélité. Et à la demande de beaucoup d'entre vous, Radio Orient accepte de diffuser chaque émission dans la semaine trois fois pour permettre au plus grand nombre d'auditeurs d'en profiter. Une première fois le vendredi à 19h30. Une seconde fois le samedi à 19h et une troisième fois le dimanche à 13h. C'est une gâterie de la part de Radio Orient, mais c'est une gâterie que vous méritez puisque vous portez intérêt à une émission tout à fait inhabituelle, comme je vous l'ai dit au début, puisque il est très rare qu'on s'aventure dans des propos scientifiques, dans une histoire critique et des analyses très précises du vocabulaire relatif à la connaissance de la pensée islamique. Et ce succès montre qu'il y a un besoin de la part du public, non seulement de Radio Orient, mais d'un très grand public. Et comme je vous l'ai dit, Radio Orient va faire école, je pense, parce qu'on s'apercevra qu'il y a un vide très grand créé par l'indifférence des médias en France pour ce genre d'émission. En tout cas, encore une fois, je vous remercie et je suis heureux de pouvoir continuer puisque vous m'encouragez par votre fidélité. Alors, dans la précédente émission, nous avons parlé de la culture orale et de la culture écrite, des différences entre les transmissions des traditions islamiques ou de toute autre religion. Ce n'est pas seulement l'islam qui connaît cette différence entre l'oral et l'écrit, mais en islam, la transmission orale a duré très longtemps et elle dure encore d'ailleurs, puisque aujourd'hui encore, un grand nombre de musulmans récitent ou citent des hadiths par cœur dans des conversations. Ils récitent et citent des versets de Coran par cœur. C'est une manière donc de dire que l'oralité, par différenciation par rapport à l'écriture, continue dans la transmission de la pensée et des croyances en islam, et elle anime par conséquent une activité culturelle qui est de plus en plus restreinte dans les cultures comme en Europe, qui maintenant utilisent essentiellement l'écrit. Alors, pour continuer mes explications de l'émission précédente, je voudrais aujourd'hui vous parler de la fitna. La fitna est un très très grand sujet dans l'histoire de l'islam, dans l'histoire de la formation de la croyance musulmane, mais plus encore, la fitna est le point de départ des grandes disputes, des grandes querelles et des grandes discussions de type intellectuel théologique entre les musulmans au sujet de quelque chose qui divise encore aujourd'hui les musulmans et qui est le gouvernement légitime, le chef légitime de la cité musulmane après la mort du prophète en 632. 661, c'est ce qu'on appelle la bataille de Siffin, qui oppose des partisans de Ali ibn Abi Talib, qui était alors calife, le quatrième calife, et Muawiya, qui appartient à la famille des Banu Sufyan, dont nous savons qu'ils étaient, les Banu Sufyan, des opposants au Banu Hashim, la famille du prophète à la Mecque, et que cette opposition entre les deux grands clans Qurayshites réfère à l'exercice d'un pouvoir évidemment religieux, parce qu'il y avait une religion avant l'islam, même si cette religion est païenne, elle comporte quand même des croyances, des institutions, des normes, des codes juridiques, et là tous les attributs de ce que nous appelons une religion. Mais la religion musulmane va justement créer une très grande différence par rapport à toutes les croyances, à toutes les institutions de la religion arabe avant l'islam. Avant d'expliquer les enjeux politiques et religieux de la grande querelle, al-fitna al-kubra, comme on l'appelle en arabe, qui a éclaté donc entre Ali et Muawiya, les partisans de Ali et les partisans de Muawiya, il faut expliquer le mot fitna lui-même. Le mot fitna intervient dans le Coran, et le Coran dit par exemple que vos biens et vos enfants sont une fitna pour vous, croyants. C'est-à-dire, ce sont des facteurs qui peuvent vous éloigner de la foi en Dieu, de vos devoirs vis-à-vis de Dieu. Donc la fitna, c'est la séduction qu'exercent les biens de ce monde, les intérêts de ce monde, et qui, par cette séduction, nous éloigne de l'essentiel qui est l'obéissance constante et le contact, si je puis dire, constant avec la présence de Dieu. Et la séduction du pouvoir, la séduction qui exerce le pouvoir, toujours en ce temps-là comme aujourd'hui, fait que les musulmans s'éloignent des enseignements de Dieu en se livrant à de grandes querelles qui sont des querelles politiques, des querelles qui concernent les biens de ce monde, comme le pouvoir et tous les intérêts que l'on peut recevoir du pouvoir quand on le conquiert. Et c'est ainsi donc que la fitna a toujours été violemment condamnée dans la tradition musulmane. Et cependant, la fitna est toujours là parce qu'il n'est pas possible de surmonter les querelles entre les membres d'une même société ou d'une même communauté religieuse. Voilà donc ce que veut dire le mot fitna. Maintenant, le mot fitna est présenté dans l'histoire de l'islam de deux façons. Comme tous les grands moments de l'histoire de l'islam, il y a la présentation théologico-politique, c'est-à-dire qui essaye de défendre un point de vue musulman sur la foi orthodoxe, la foi telle qu'elle est comprise par une partie des musulmans contre une autre partie qui développe une autre interprétation fondée sur d'autres principes, comme cela justement va arriver entre ce que nous appelons les sunnites et les chiites. Et c'est de là que va commencer justement, car il n'y a pas encore au moment où nous parlons, c'est-à-dire nous sommes en 661, voyez l'historien, il précise les choses. Il ne faut pas attribuer à 661 des choses qui n'existent pas encore. Ce qu'on appelle le parti chiite, ce qu'on appelle le parti sunnite, pour l'instant, ne sont qu'au début, ils ne sont pas encore formés, ils vont se former progressivement après l'installation de la dynastie Omeyyade et ils vont continuer à se quereller tout au long de la dynastie Omeyyade et tout au long de la dynastie Abbaside pour arriver à une séparation que nous constatons aujourd'hui. Les chiites, les imamiens, comme on les appelle, vont surtout se concentrer en Iran. C'est ainsi que le chiisme devient la religion officielle en Iran, tandis que le sunnisme va rester dans les autres pays musulmans. Il y a évidemment des chiites qui restent en Irak à cause du tombeau de Ali et du tombeau de Hussein au Najaf et à Karbala, mais tout ceci va se dérouler après l'événement que nous allons essayer de comprendre maintenant. Nous allons nous arrêter ici pour un petit repos musical selon notre habitude. Je propose une pause musicale avec Ziyad Rahbani. Eh bien, après cet intermède, nous reprenons la suite de notre exposé. Au sujet de la fitna, je vous rappelle que je présentais la fitna comme étant un grand sujet dans l'histoire de l'islam, et ce sujet, parce qu'il est très disputé parmi les musulmans, est présenté de deux manières, comme tous les grands sujets dans une histoire religieuse et politique. La première manière, c'est celle des musulmans, la tradition musulmane, comme je vous l'ai dit. La deuxième manière, c'est celle de l'historien moderne critique qui travaille sur des documents. Alors, l'historien, d'abord, va se méfier du vocabulaire qui est utilisé par ceux qui ont rapporté les événements de la fitna en 661, parce que les historiens qui ont rapporté ces événements se sont fondés, comme nous l'avons dit, sur des transmissions orales des akhbar, c'est-à-dire des petits récits qui vont être recueillis de mémoire et transmis de mémoire pendant longtemps, et que l'on va mettre par écrit progressivement après le premier siècle de l'Hégire. Les événements, par exemple, nous allons les trouver dans l'histoire de Tabari, qui, comme nous l'avons dit, nous avons rencontré le nom de Tabari déjà. Tabari est un grand historien et un grand exégète du Coran. Il a écrit une histoire de 20 volumes, et un tafsir du Coran qui a également près de 20 volumes, et il rapporte tous les akhbar qui ont été transmis avant lui, soit oralement, soit mis par écrit dans des livres partiels, et lui, il rassemble cette tradition que nous trouvons. Et lorsque nous lisons Tabari, donc Tabari est un homme de la fin du 9e, début du 10e siècle, il utilise un vocabulaire très influencé par toutes les querelles politiques et théologiques qui ont été développées entre les musulmans de 661 jusqu'au temps de Tabari. Et donc, il ne va pas utiliser exactement les termes et les argumentations qu'ont utilisé les contemporains de Ali et les contemporains de Muawiya. C'est cela qui inquiète beaucoup, toujours, l'historien. Car si nous utilisons les termes de Tabari, nous allons faire une histoire telle que les chiites, qui au temps de Tabari sont maintenant un parti très fort et bien organisé, contre les sunnites, qui sont aussi un parti très fort, et le parti majoritaire musulman est le parti qui détient le pouvoir depuis l'installation de Muawiya en 661. Donc il faut bien tenir compte de cette différence entre un parti chiite qui va être dans ce qu'on appellerait aujourd'hui l'opposition politique et religieuse contre le parti sunnite qui, lui, est un parti ou une communauté, c'est une communauté musulmane, mais cette communauté est représentée par le calife Omeyyade et ensuite par le calife Abbaside. Donc les sunnites sont du côté de l'islam, on peut dire, officiel. Tandis que les chiites, pendant tout ce temps-là, vont être du côté de l'opposition. Et ce conflit va donc se dérouler, et je m'excuse, j'ai oublié une troisième force politico-religieuse qui déjà apparaît dans le conflit de Siffin au temps de Ali et de Muawiya, ce sont ce qu'on appelle les Kharijites. On dit les Kharijites en arabe al-Khawarij. Il faut que je m'arrête un peu sur cette appellation pour vous montrer le caractère toujours conflictuel d'opposition politique et religieuse à la fois très forte entre les différents courants qui apparaissent, qui se dessinent déjà dans le conflit de Siffin en 661. En effet, en arabe, on dit « kharaja al-adou ». Ça n'est pas « kharaja min dar », par exemple, ou « kharaja min umma ». C'est sortir, quitter, sortir de la communauté. C'est cette idée-là qui est restée dans l'esprit des musulmans. Mais cette idée-là est une idée polémique, car au temps de Ali, ceux qu'on appelle des Khawarij comptaient parmi ceux qui le soutenaient aussi, mais à un moment donné, quand Ali a accepté al-Tahkim, l'arbitrage, entre lui et Muawiya pour les départager, les Khawarij, à ce moment-là, ont manifesté leur désaccord. Parce qu'ils ne voulaient pas que la question soit tranchée par un arbitrage qu'ils jugeaient justement partial, alors qu'ils voulaient une autre manière de résoudre le problème. Donc, ils quittent Ali à la fin, mais pas au début. Et au début, ils le soutiennent, donc c'est Kharaja Ala, ça veut dire ils continue à combattre pour l'islam à ce temps-là, mais après la victoire politique de Muawiya et quand la dynastie Omeyyade va s'installer comme pouvoir, les Khawarij vont être dans l'opposition et ils vont être persécutés autant que vont l'être les partisans de Ali qui continuent évidemment à se développer contre le fait accompli de la prise de pouvoir de Muawiya, qui, je le répète, est un descendant d'Abu Sufyan, c'est-à-dire du clan qui est considéré comme celui qui a lutté contre le prophète lui-même de son vivant. Et pour mieux comprendre ce méli-mélo, cette confusion, vous le voyez, qui se traduit par des combats sérieux, il faut ajouter que les musulmans, déjà en ce temps-là, introduisaient l'idée de préséance entre les musulmans. La préséance, c'est-à-dire l'ordre chronologique de conversion à l'islam. C'est l'ordre chronologique de conversion à l'islam qui confère l'autorité, par exemple, à Abou Bakr et à Ali ibn Abi Talib, qui ont été parmi les premiers, les tout premiers, qui ont accepté de se convertir à l'islam. D'autres sont venus progressivement, et il y a une classification chronologique entre les premiers convertis à l'islam, et plus on est ancien converti, plus on jouit d'une autorité auprès du prophète, puisqu'on s'est engagé dès le début avec lui dans un combat, car il s'agit d'un combat, et cela s'appelle al-afdaliya, al-fadl, c'est-à-dire la préséance spirituelle et morale, et en termes de chronologie, ça s'appelle al-asbaqiya, ceux qui se sont convertis les premiers. Et l'asbaqiya entraîne l'afdaliya. Ça, c'est extrêmement important à retenir pour comprendre les arguments que les musulmans vont échanger selon qu'ils se positionnent avec ceux qui vont devenir les sunnites ou ceux qui vont devenir les kharijites et ceux qui vont devenir les chiites. De toute façon, nous constatons une dispersion des musulmans sur un certain nombre de problèmes qui touchent la croyance. C'est cela qu'il faut retenir 30 ans après la mort du prophète. Ceci pour dire que la croyance religieuse ne se développe pas dans la paix, ne se développe pas dans la reconnaissance mutuelle, et l'idée de l'oumma unifiée est une aspiration idéale, mais qui, sur le plan de l'histoire, on le voit, ne se réalise pas. Nous verrons donc comment cette histoire continue et nous parlerons la prochaine fois. Je vous ai expliqué le versant surtout religieux, mais il faut expliquer davantage le versant sociologique, politique et le versant anthropologique de cette grande querelle entre les contemporains, je dirais, de Ali et de Muawiya. Quand je dis contemporain, j'emploie un mot neutre. Tandis que quand je dis sunnite, chiite, kharijite, ces mots-là sont chargés d'options à la fois religieuses et politiques. Et désormais, je l'espère, vous allez vous souvenir de ça. Chaque fois que nous disons kharijite, sunnite, chiite, nous devons dire attention, c'est une pente glissante, parce que je peux prendre le parti des sunnites, le parti des kharijites ou le parti des chiites. Et comme les chiites sont toujours vivants et très forts politiquement maintenant, tout le monde entend parler de la présence des chiites, les sunnites évidemment sont la majorité en nombre. Mais sur le plan de la querelle théologique, il n'y a pas de majorité, puisque dans la théologie, c'est l'authenticité de la croyance musulmane qui compte. Et pour l'authenticité, c'est la science qui compte. Ça n'est pas le combat politique et militaire pour conquérir le pouvoir et devenir la religion officielle. Ça, c'est très, très important à comprendre. Et nous reviendrons sur ce point la prochaine fois. Bienvenue à tous. Je vous rappelle que cette émission est rediffusée 3 fois dans la semaine. La première fois le vendredi à 19h30, le samedi à 19h et le dimanche à 13h. Nous reprenons notre propos au sujet de la fitna, la grande querelle entre les musulmans qui va donner lieu à la naissance des communautés musulmanes, des trois grandes communautés musulmanes que nous connaissons sous les noms de chiites, sunnites et kharijites. Je vous ai expliqué, pour ceux d'entre vous qui étaient là la dernière fois, l'importance du sens du mot kharijite. Ce ne sont pas des musulmans qui ont quitté l'islam, pas du tout. Ce sont des gens qui ont lutté avec Ali jusqu'à au moment où Ali a accepté l'arbitrage. Maintenant, je vous avais promis de vous expliquer la dimension sociologique, anthropologique et politique de la fitna al-kubra. L'islam n'a pas aboli les forces sociales et les structures sociales de l'Arabie, comme de tout le Proche-Orient et comme de toutes les sociétés où l'islam va se répandre après 632, qui étaient, rappelons-le, des structures tribales. Et ce qui détermine les solidarités sociales et politiques, c'est le nasab. Nasab. Alors il y a deux mots qu'il faut retenir ici. Nasab ou l'hasab. Nasab, c'est la généalogie que chaque membre d'une tribu mémorise pour se situer dans une lignée à l'intérieur de la tribu. C'est pour cela que dans les isnades, on dit, ou dans les noms arabes en général, Muhammad ibn Omar ibn Ali ibn Abdullah, par exemple. Ibn. C'est la chaîne généalogique pour se situer socialement dans un clan et dans une grande famille patriarcale. Car c'est par là que se déterminent les options à la fois sociales et politiques des membres de la tribu. Et dans la fitna al-kubra, les acteurs de cette querelle ne portent pas dans leur tête uniquement des références à l'islam, qui est une nouvelle religion. Et cette nouvelle religion a enseigné justement la nécessité de substituer aux critères du sang pour déterminer les solidarités le critère de l'appartenance religieuse spirituelle. Innama akramukum indallahi atqakum. Ça, c'est un verset qui s'inscrit dans la société arabe tribale, dans les structures sociales tribales qui règlent les liens sociaux, qui règlent soit les alliances, soit les conflits qui durent des années et des années entre des clans, entre des tribus, entre des familles patriarcales. Alors, l'idée importante qu'il ne faut pas perdre de vue, et qui, j'insiste parce que elle a été perdue de vue. Quand on dit que Ali s'oppose à Muawiya, on laisse croire que cette opposition n'a pour objet et pour critère que la religion, l'islam, la nouvelle religion. Non. Au-dessous de ce critère, si je puis dire, car l'islam est en train de recouvrir avec son éthique nouvelle, ces critères nouveaux pour créer des liens sociaux dans la nouvelle société musulmane, il va recouvrir les enjeux tribaux et les options tribales qu'Ibn Khaldoun, au XIVe siècle, c'est-à-dire 7 siècles après 661, Ibn Khaldoun va mettre au centre de son analyse des sociétés arabes et berbères en Afrique du Nord le nasab, la généalogie, sur laquelle repose ce qu'il appelle, Ibn Khaldoun, l'asabiya. L'asab, c'est les nerfs. L'asabiya, c'est le réseau nerveux de notre corps. L'enchevêtrement des nerfs dans notre corps. C'est une belle image pour faire comprendre les forces sociales qui agissent à l'intérieur des sociétés tribales, que les anthropologues appellent des sociétés segmentaires, c'est-à-dire elles sont divisées en segments, segments sociaux, unités sociales plus ou moins larges. Voilà pourquoi, par exemple, pour les Kharijites, ils appartiennent à certaines tribus qui sont différentes dans l'échiquier des tribus de l'Arabie de celles qui vont avec Ali, Banu Hashim, les Quraysh. De même, les chiites ont des liens avec d'autres tribus, et ces tribus qui vont s'installer à Koufa, qui vont s'installer à Basra, qui sont les deux premières grandes villes conquises déjà en 636 au temps de Omar ibn al-Khattab, eh bien, dans Basra et Koufa, nous allons trouver un creuset nouveau, urbain, où des liens tribaux et des alliances tribales vont se tisser, et ces alliances vont commander la conquête et l'exercice du pouvoir pendant toute la dynastie Omeyyade. Et les Omeyyades étant des Banu Soufiane, la continuité de la Asabiya et de cette lutte entre des clans tribaux aux intérêts différents et aux généalogies différentes va se poursuivre pour aboutir en 750 à la chute de la dynastie Omeyyade, qui va être remplacée par la dynastie d'Al-Abbas. On revient au Banu Hashim, on revient à la famille du prophète un siècle après. Ça, c'est une idée très forte que j'aimerais implanter dans la vision historique de l'histoire de ce qu'on appelle l'islam. Et vous voyez que lorsqu'on dit l'histoire de l'islam, l'islam réfère premièrement à la religion musulmane, il ne réfère pas d'une façon claire au fait que cet islam s'inscrit dans des sociétés qui ne perdent pas, malgré l'existence de l'islam, malgré le développement des enseignements de l'islam et progressivement de la charia dont nous allons parler après, malgré tout cela, ce sont les structures tribales qui vont continuer à commander l'attitude de ce qu'on appellera les acteurs sociaux. Acteurs sociaux, c'est un terme neutre. Voilà, voilà, l'historien, il recherche toujours des termes neutres pour ne pas s'engager trop dans une direction ou dans une autre et épouser une ligne politique et religieuse, et négliger les autres et désigner les autres comme étant des lignes hétérodoxes qui sont sorties de l'islam, etc. Voilà pourquoi je répète qu'il y a deux manières d'écrire l'histoire de l'islam. La manière théologique qui défend une ligne qui s'affirme comme la ligne vraie de l'islam vrai ou du christianisme vrai, comme par exemple les catholiques chez les chrétiens, ou les orthodoxes, ils s'appellent eux-mêmes orthodoxes, voilà le mot orthodoxie, qui revient à l'intérieur du christianisme. C'est exactement la même chose qui se passe pour l'islam. Autrement dit, je suis en train de vous faire comprendre que la référence à une religion ne doit jamais négliger la référence aux structures sociales et aux divergences d'ordre politique qui font évoluer la société Et ces divergences-là vont utiliser des argumentaires, des manières de défendre leur position politique en utilisant, en puisant dans le contenu spirituel, éthique et symbolique de l'enseignement des religions. Voilà comment les religions fonctionnent dans les sociétés. Un peu de musique pour nous détendre. Pour changer un peu, nous allons écouter un tarsim de Thomas. J'espère que ce petit intermède musical vous inspire encore plus de désir de continuer notre prospection. Nous poursuivons notre analyse des deux versants, social et politique d'un côté, religieux de l'autre, de la grande querelle al-Fitna al-Kubra. Et je voudrais rattacher à cette querelle le concept que le Coran utilise de jahiliya. C'est un concept clé à l'intérieur du Coran et c'est un concept aussi clé pour comprendre l'histoire des sociétés où l'enseignement de l'islam s'est prolongé. Et pour vous dire, vous faire comprendre pourquoi ce mot est extrêmement important, c'est que nous le retrouvons chez Seyyid Qutb, qui a utilisé pour désigner les sociétés laïcisées, modernisées, touchées par la modernité, comme des sociétés qui s'éloignent de l'enseignement de Dieu, comme la société arabe au temps du prophète était loin du nouvel enseignement que le prophète apportait, et cela créait une tension entre l'islam ou le jahiliya, de même que dans l'Égypte de Nasser, qui a connu Seyyid Qutb, qui a été pendu par Nasser, eh bien, il y avait cette tension entre une partie des musulmans, les frères musulmans en ce temps-là, qui voulaient appliquer l'islam authentique, asil, comme beaucoup de musulmans disent, parce qu'ils jugeaient la révolution arabe socialiste que prenait le pouvoir nasserien comme un éloignement vis-à-vis du modèle islamique de la construction de la cité musulmane. Autrement dit, le jahiliya devient un symbole pour désigner une tension entre deux visions de l'homme et deux visions du destin de l'homme en général. Un destin lié aux enseignements de Dieu révélés. Quand je m'exprime ainsi, j'inclus bien sûr d'autres religions qui croient aussi à un destin transcendant de l'homme, un destin spirituel de l'homme, et de l'autre côté, un destin qui, avant la modernité, était le destin des hommes liés au polythéisme, à des croyances différentes, mais ce sont quand même des croyances religieuses aux yeux de l'ethnologue et de l'anthropologue, mais elles sont différentes des religions monothéistes ou des religions asiatiques, parce que ça se passe aussi de la même façon vis-à-vis du bouddhisme, vis-à-vis de l'hindouisme. Le phénomène des religions s'est développé dans l'histoire des religions, toujours par rapport à une religion existante déjà et qu'il fallait remplacer par une autre religion qui se présente comme un progrès dans l'expression religieuse de l'homme par rapport aux religions qui existaient auparavant. Et donc ce concept de jahiliya va être utilisé tout au long de l'histoire de l'islam. ça devient un paradis. Voilà pourquoi il faut s'arrêter au mot jahiliya. Dans le mot jahiliya, c'est un mot abstrait avec la terminaison iya, comme on dit jumhuriya, qui vient de la racine jahl, jahl, jahl. Jahl, c'est l'ignorance. Quelle ignorance ? Le Coran parle de jahiliya oula. Alors les commentateurs sont embarrassés. Qu'est-ce que ça veut dire cette jahiliya oula ? Est-ce que c'est oula en termes chronologiques ? Ou bien est-ce que c'est oula en termes de fonction de la jahiliya, fonction sociale, fonction culturelle de la jahiliya dans la société arabe telle que l'a envoyée les contemporains du prophète ? C'est difficile de décider. Mais beaucoup de commentateurs musulmans, autrefois au Moyen-Âge, ont compris l'oula au sens chronologique. Mais une chronologie de Asfarid Abdaliya, que j'ai expliqué tout à l'heure, pour les convertis à l'islam. L'oula, ce serait la jahiliya des sociétés depuis jusqu'à Noé. C'est la représentation que les commentateurs musulmans ont de ce qu'on appelle l'histoire du salut. C'est une histoire, il y a la chronologie, il y a avant l'islam, après l'islam, mais ce n'est pas une chronologie comme la chronologie de notre histoire. C'est une chronologie spirituelle. Les sociétés qui ont vécu au temps de Noé, d'ailleurs, vu de l'histoire telle que nous la connaissons aujourd'hui, Adam et Noé, l'historien se demande s'ils ont existé ou pas, s'ils ne sont pas des constructions symboliques idéales, des figures idéales qui sont offertes à la méditation des croyants pour qu'ils se réfèrent à eux comme des exemples de l'évolution de la croyance religieuse. Là, vous voyez, je mets toujours les deux points de vue. Je n'exclus aucun. Et je les mêle tout en les précisant. Parce que à la fin de notre parcours, pas de notre parcours pour cette conférence, à la fin du parcours de la recherche scientifique, et cette recherche scientifique n'aura jamais de fin en réalité. Mais enfin, il y a des conclusions provisoires auxquelles on peut arriver. Si on continue à procéder comme je procède, en respectant ce que dit la tradition croyante, mais en respectant en même temps, et c'est un devoir pour l'historien de le faire, les progrès par ailleurs que la recherche historique fait, par exemple sur l'histoire de tout ce qui est dit dans la Bible. Et comme le Coran réfère à la Bible, on est obligé à l'intérieur de l'islam de partager ces interrogations au sujet des figures de Noé, de Moïse, d'Abraham, de Lot, etc., de Ayoub, de tous ces noms qui peuplent et construisent le récit biblique. Eh bien, les historiens les prennent en charge, ils font des recherches archéologiques pour essayer de trouver des documents archéologiques, des inscriptions sur des pierres, sur des parchemins ou des, toutes sortes de restes qui pourraient permettre à l'historien de dire tiens, ça confirme ce qui est dit dans la Bible dans tel ou tel verset. Donc, vous voyez, comme ce concept de jahiliya nous entraîne très loin, ce n'est pas aussi facile que de croire beaucoup. Il dit simplement jahiliya, c'est le temps des ignorances, le temps des ténèbres, et l'islam, c'est le temps des lumières. Volumat jahiliya wa nurul islam. Je reviendrai sur cette formule la prochaine fois. Merci pour votre fidélité.
L'islam. hier, demain, une émission est présentée.